Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, d'échanges et de débats. Et ce soir au programme, un monument de l'histoire française. On parlera du général de Gaulle et de son héritage politique. Il est amusant de souligner qu'aujourd'hui, en ce 50e anniversaire de sa mort, les politiques de tous bords se revendiquent gaullistes. De Arnaud Montebourg à Emmanuel Macron, en passant même par Marine Le Pen. Alors que reste-t-il du gaullisme justement? On posera la question tout à l'heure dans le débat du Club des idées à nos invités et à l'écrivain Michel Onfray qui publie « Vie parallèle, de Gaulle-Mitterrand ». Avant cela, on ira aux États-Unis, évidemment, où ça y est, l'équipe Biden s'est mise au travail alors que Donald Trump conteste toujours la victoire du démocrate. Le président élu s'exprime d'ailleurs en ce moment, on ira sur place. Et puis notre invité à 18h20 ce soir, il est l'un des meilleurs spécialistes français du terrorisme, l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, qui publie le roman du terrorisme, un ouvrage, vous le verrez, passionnant, qu'il nous racontera dans 20 minutes. Mais d'abord le journal avec vous Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h et vous êtes sur Europe 1.
C'est une excellente nouvelle, hein, il n'y a aucun doute là. Alors il faut quand même avoir des précautions, mais le fait qu'on soit à 90% au pic de la réponse immunitaire est un très bon signe.
Et cette lueur d'espoir donc ce soir, un vaccin contre le Covid efficace à 90%.
Oui, les laboratoires Pfizer et BioNTech se disent confiants après des essais à grande échelle.
Si l'efficacité était confirmée, quand pourrait-on commencer à se faire vacciner? On vous dit tout dès le début de ce journal.
Il est peut-être monté en quelques minutes seulement et accueillir jusqu'à 18 patients. Un hôpital mobile installé, tenez-vous bien, à Bayonne aujourd'hui.
Des policiers et des pompiers pris pour cible ce matin à Compiègne, Europe 1 sur place.
C'était il y a un demi-siècle, la mort donc du général de Gaulle. Hommage cet après-midi d'Emmanuel Macron, nous y serons à Colombey-les-Deux-Églises.
Le Vendée Globe, Damien Seguin, le premier navigateur handisport à participer à cette course, est en tête pour l'instant au bout de 24 heures. Et puis les marchés financiers qui s'envolent hein, après l'annonce d'un espoir de vaccin, plus 7,57% à Paris qui clôture à 5336 points.
La tendance météo avec Anissa. Bonsoir, Anissa. Un temps nuageux au programme demain.
Oui, c'est à cause d'une petite perturbation faiblement pluvieuse qui va traverser le pays, qui va nous apporter pas mal de nuages demain. Mais je vous rassure, les températures, elles restent très douces pour la saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un vaccin anti-Covid, le monde entier en rêve. Eh bien, les laboratoires américains Pfizer et allemand BioNTech ont donc peut-être relevé le défi et pris de vitesse tous leurs concurrents.
Oui, ils sont en tout cas très optimistes, Victor Delande.
Oui, ils assurent que leur vaccin est efficace à 90%. Cette efficacité vaccinale a été mesurée en comparant un groupe de personnes qui avaient reçu le vaccin et un autre qui a reçu un placebo. Ils ont ensuite regardé quel était le groupe le mieux protégé du Covid, 28 jours après la première dose et 7 jours après la deuxième. Ces résultats sont encore intermédiaires, mais ils sont très encourageants car non seulement le vaccin se révèle efficace et en plus, c'est très important, il est sans effet secondaire notable. Il faut rappeler que ce vaccin en est à la phase 3, c'est la dernière avant une demande d'homologation. Cette phase 3, elle a débuté fin juillet et elle s'est appuyée sur plus de 40 000 patients.
Et alors si tout va bien, Victor, il sera disponible à partir de quand ce vaccin?
Alors, Pfizer et BioNTech vont demander une autorisation d'utilisation d'urgence de leur vaccin aux États-Unis à l'issue de cette phase 3. Ils estiment que les trois critères nécessaires, c'est-à-dire l'efficacité, l'absence de risque pour la santé et la capacité de produire à une grande échelle, seront remplis d'ici la fin du mois, ce qui signifierait concrètement que des membres du personnel hospitalier pourraient être les premiers à être vaccinés dans certains pays avant la fin de l'année. Prudence tout de même, tout le monde ne sera pas vacciné début janvier car ce candidat vaccin produit par Pfizer et BioNTech doit être conservé à moins 80 degrés. Ce qui demande une logistique énorme, ces congélateurs spéciaux coûtent très cher et on ne les trouve pas forcément dans tous les hôpitaux et dans tous les laboratoires.
Effectivement, merci Victor Delande du service Société d'Europe 1. Alors ça n'est pas pour tout de suite, ça risque d'être encore un peu compliqué, mais c'est une nouvelle extrêmement encourageante pour Marie-Paul Kieny. Elle est directrice de recherche à l'INSERM et présidente du comité vaccin Covid-19 en France.
C'est une excellente nouvelle, hein, il n'y a aucun doute là. Alors il faut quand même avoir des précautions, il faut surtout attendre un petit peu de voir comment ces résultats évoluent. En principe, ces résultats pourraient baisser dans les mois qui viennent, mais le fait qu'on soit à 90% au pic de la réponse immunitaire est un très bon signe. Ça pourrait vouloir dire que même si cette protection baisse un petit peu au fur et à mesure des semaines et des mois, on pourrait néanmoins garder une protection significative.
La présidente du comité vaccin Covid-19 en France. France avec Victor Delande.
Et réaction Isabelle, les bourses du monde entier ont salué cet espoir de vaccin. Les places européennes notamment ont signé leur meilleure performance sur une séance depuis 6 mois.
Oui, ça s'envole, hein. Plus 7,57% pour Paris. Et on verra à 19h que cette annonce profite en premier lieu au secteur affecté par les mesures de restriction dues au Covid, hein, comme le voyage ou l'aéronautique. Et qu'au contraire, elle fait plonger par exemple les Deliveroo ou bien les Netflix qui eux ont tout à gagner du confinement.
Logique, me direz-vous. En attendant un vaccin, nous continuons évidemment à scruter la courbe de l'épidémie.
Avec pour la première fois ce que le ministre de la Santé a qualifié de frémissement dans les chiffres et même une forme de ralentissement, d'infléchissement, même s'il est encore trop tôt pour tirer les premières conclusions du confinement.
Et on suivra d'ailleurs d'ici quelques minutes la conférence de presse de Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé.
Les hôpitaux qui restent sous tension pour tenter de soulager ces services d'urgence. La ville de Bayonne vient de recevoir une unité mobile en provenance de Toulouse. C'est un prototype qui peut se déployer extrêmement rapidement, comme vous l'avez constaté, Benjamin Peter. Il faut quelques minutes seulement.
Oui, je dois dire que c'est assez impressionnant la vitesse à laquelle la remorque se déplie comme un accordéon pour créer au final un vaste espace qui peut accueillir jusqu'à 18 patients. C'est le professeur Vincent Boone, patron du SAMU 31, qui a imaginé ce dispositif.
Le cahier des charges, on leur avait dit, c'était moins de demi-heure. Ce que j'appelle le camion minute, c'était il fallait que le premier patient soit accueilli en moins de demi-heure. Notre record actuellement, c'est 20 minutes, donc on est dans les clous. Plus vite on est prêt, plus vite on est apte à prendre en charge rapidement les patients. Et meilleures seront les chances de récupération et de survie. On a une autonomie complète. C'est un hôpital qui est prévu au départ pour être monté au milieu de rien. Au milieu du plateau du Larzac, ça marchera. Au milieu du Sahara, ça marchera.
La société toulousaine Sogelec a recyclé cet ancien centre de commandement de l'armée pour l'adapter aux besoins des soignants. Thomas, qui est infirmier, va donc trouver ici tout ce qu'il lui faut pour prendre en charge les patients.
On a eu l'habitude pendant des années de travailler avec des tentes. Les tentes, ça subit les conditions climatiques. Alors on va être dans des conditions de travail qui nous vont nous faciliter énormément la tâche. Là, vous avez les respirateurs, par exemple, les poussins électriques sont là. On peut arriver à gérer un malade de réa ici. On a effectivement tout le matériel nécessaire.
Alors le camion est arrivé cet après-midi au centre hospitalier de Bayonne et dès demain, il devrait permettre de soulager les urgences avant d'être consacré uniquement au Covid dès mercredi.
Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse.
18h06, des violences ce matin à Compiègne dans l'Oise devant un lycée. Des pompiers et des policiers ont été pris pour cible.
5 jeunes ont été interpellés à l'issue de ces incidents. Roman Hoquet a rencontré des lycéens qui ont assisté à ces affrontements.
Il y avait déjà des flammes, des explosions, donc ils avaient mis le feu au milieu de la route pour bloquer la route.
Tout a commencé par des feux de poubelle devant le lycée, raconte Pierre-Louis, un élève. Il est 7h dans ce quartier sensible de la ville et plus d'une cinquantaine de jeunes font face aux policiers, visés par des jets de pierre et des tirs de mortier d'artifice.
Il y a à peu près une quinzaine d'élèves qui a joué, qui a caillassé sur les policiers, quoi. Après, il y a d'autres personnes extérieures, mais je connaissais pas, quoi. Je pense que ça a été prévu, parce que pour arriver aussitôt, j'ai trouvé ça surtout honteux.
Les projectiles blessent l'un des pompiers. Une violence, une tension telle que les policiers abandonnent leur voiture, pillée et saccagée par des jeunes cagoulés. Le blocage a dégénéré, expliquent certains élèves. Eux souhaitaient d'abord dénoncer le protocole sanitaire du lycée.
Les distanciations, ils sont pas respectées, quoi. C'est ce qui a fait la manifestation. Faut pas se laisser faire.
Un mot d'ordre qui fait sourire Lucas. Cet autre lycéen n'est pas dupe.
Qu'on soit tous côte à côte pendant la manifestation, quoi. C'est vrai que ça respecte pas le protocole, quoi. Puis il y en a beaucoup qui ont souvent pas le masque, tout ça. Donc, après, c'est mon point de vue, mais c'est sûr que je pense qu'il y en a, ils sont quand même qui veulent pas aller en cours, tout ça. Ça les arrange aussi d'un côté.
Le lycée est resté fermé tout l'après-midi avant une reprise des cours demain matin.
Le reportage de Roman Hoquet à Compiègne pour Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite de votre journal 18h09 avec toujours Isabelle Millet et Emmanuel Macron était à Colombey-les-Deux-Églises aujourd'hui en Haute-Marne pour commémorer évidemment le 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle.
Oui, pour un hommage sobre et quasiment sans public, Louis de Raguenel.
Oui, un hommage sans public, sans discours et sans messe. Coronavirus oblige, pour ce 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle, Emmanuel Macron et son épouse ont été contraints d'opter pour un protocole sobre dans un village entièrement sous cloche en raison du confinement. Le président a toutefois tenu à ce que son pèlerinage, comme le dit un de ses proches, se déroule comme prévu, mais avec beaucoup moins de monde. Seules 30 personnes ont représenté les centaines d'invités prévus initialement. 3 petits-fils du général, des élus locaux, le préfet et bien sûr des responsables militaires. Emmanuel Macron clôturera cette semaine mémorielle à travers un discours solennel mercredi prochain à l'occasion du 11 novembre en rendant hommage à la fois au poilu de 14, au général de Gaulle qui avait d'ailleurs combattu pendant la Grande Guerre et enfin à l'académicien Maurice Genevoix, L'académicien entrera d'ailleurs mercredi dans ce temple de la République.
Merci Louis de Raguenel du service politique d'Europe 1.
Emmanuel Macron qui participera par ailleurs demain à un mini-sommet consacré à la lutte contre le terrorisme. La France, l'Autriche et l'Allemagne réunis par visioconférence, ainsi que la présidente de la Commission et le président du Conseil européen. Des nouvelles à présent du Vendée Globe, parti hier des Sables d'Olonne.
Et oui, 24 heures de course, première journée en mer et au dernier classement, le doyen du Vendée, le skipper Jean Lecam, se fait doubler par Damien Seguin, qui n'est autre que le premier marin handisport à participer à cette course, Corinne Boulou.
Oui, c'est un excellent début de course hein, d'une en-tête 41 ans dont le voilier à dérive classique semble à l'aise dans les petits airs. Damien Seguin, né sans main gauche, a dû batailler contre les idées reçues pour avoir le droit de s'aligner sur un tour du monde en solitaire. Alors, s'il fait figure de pionnier, Damien Seguin n'est pas un néophyte. Double champion paralympique, il compte plusieurs transats sur son tableau de bord, mais ce tour du monde, c'est vrai, il en rêvait. Et le skipper du monocoque à Piscy l'a convaincu que c'était possible. Avant le départ, Damien Seguin assumait d'ailleurs le poids d'une certaine exemplarité.
Oui, il y a une responsabilité, il y a une pression peut-être un petit peu supplémentaire, mais que je me mets moi-même de toute façon. J'ai quand même le sentiment que j'ai moins le droit à l'erreur que les autres, ça c'est évident. Parce que si je me plante demain sur un bateau, quelle que soit la raison, ce sera toujours la faute de mon handicap. Mais j'ai l'impression que je suis en passe de réussir ce pari-là, et je le gagne pour moi, mais aussi je le gagne pour les autres.
Alors si tout se passe bien en tête pour Damien Seguin, cette première journée a quand même été marquée par le retour aux Sables d'Olonne d'un concurrent, Fabrice Amedeo, contraint de rebrousser chemin pour réparer une avarie sur son mât. Il devrait reprendre la mer et la course demain, Isabelle.
Merci beaucoup, Corinne Boulot, qui suit pour nous ce Vendée Globe.
Merci Isabelle, à tout à l'heure 18h30 et 19h pour le Grand Journal. La météo avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce eh bien, un temps un peu plus gris demain.
Oui, à cause d'une petite perturbation. Alors vu qu'on est dans un système de pression très élevée avec un anticyclone, cette perturbation ne sera pas forte en pluie, mais elle nous apporte beaucoup de nuages avec dès demain matin, du nord-est jusqu'à la région lyonnaise et jusqu'en Provence, des brouillards matinaux. On a l'habitude, hein, là, depuis une dizaine de jours, c'est vrai qu'il y a pas mal de brouillards le matin, des nuages bas qui par endroits demain seront très épais. Dans l'après-midi, les nuages bas vont se dissiper quasiment partout, sauf en Alsace, restez prudents. Des Ardennes jusqu'aux Cévennes demain matin, en passant par la Bourgogne et l'Auvergne. Et puis dans le nord-ouest, sur la Bretagne et la Normandie, là nous aurons toujours un risque d'averse. Et puis sur tout le pays, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies. C'est finalement, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, sur les Alpes, sur la Côte d'Azur et la Provence, que la journée sera la plus agréable, puisque le soleil va régner dans un ciel complètement dégagé.
Il faut toujours garder le meilleur pour la fin, Anissa.
Toujours, c'est ce que j'essaye de faire. Les températures quand même, un petit mot sur les températures. 4 à 11 degrés demain matin et 10 à 20 demain après-midi. Sachez que nous sommes 4 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison.
C'est vrai qu'on le sent le matin quand on part.
Il fait très doux.
Il fait très doux. Merci Anissa, à tout à l'heure, 18h30.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec notre invité ce soir à 18h16, l'un des grands experts français des questions de terrorisme, ancien procureur antiterrorisme, ancien juge d'instruction, il est aujourd'hui président de la Cour d'appel de Versailles et publie le roman du terrorisme aux éditions Flammarion. Bonsoir Marc Trévidic.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors dans ce livre, très fouillé, vous retracez l'histoire du terrorisme en remontant au XIe siècle. C'est un récit absolument captivant avec un parti pris assez troublant, car le narrateur du livre, c'est le terroriste qui écrit donc à la première personne, je. Vous allez même jusqu'à parler du contre-terrorisme comme du contre-moi. Pourquoi ce choix, Marc Trévidic ?
Bon, d'abord, c'est une expérience littéraire de me mettre dans la tête du terrorisme. Et puis parce qu'on parle tellement de lui, c'est un peu normal qu'on lui donne la parole de temps en temps pour qu'il donne son point de vue, qui est un point de vue cynique, assez glacial, mais au moins ça permet de bien le comprendre, bien le connaître, puisqu'il se dépeint lui-même. Je me suis assez écarté de mes pensées personnelles, essayer de les écarter un peu plus, mais je me suis rendu compte malgré tout qu'on avait des points en commun, des idées assez communes sur certains sujets.
Mais c'est un roman, mais c'est inspiré évidemment de toutes vos connaissances sur le terrorisme et sur l'évolution de ce terrorisme. Alors vous revenez sur la naissance du terrorisme justement, le terrorisme moderne qui est né, dites-vous, sous Hassan, l'ordre des assassins en Perse, aux alentours de 1090. Mm-hmm. Et il est décrit avec 7 préceptes au terrorisme. En quoi c'est cet ordre qui créa le terrorisme comme on le connaît aujourd'hui? Et quel en est l'héritage?
Le terrorisme moderne, c'est le fait d'utiliser une méthode au service d'une stratégie. Le terrorisme n'est pas une idéologie. Le terrorisme est une méthode, c'est l'expression d'une violence politique assez modérée, mais utilisée pour atteindre un objectif politique. Mmh. Et de ce point de vue-là, Hassan Ibn Sabah a réussi à créer, il a été le premier, à créer l'arme du faible par rapport au fort. Comment je vais faire, moi qui suis faible, pour quand même imposer mes volontés, ma vue politique de la société? Et il a fait quelque chose d'assez extraordinaire, mais surtout très très organisé, avec la propagande faite par des Daïs sur toute la Perse, avec des soldats, des fidaouis qui vont infiltrer, qui vont pouvoir frapper au bon moment pour tuer un sultan, pour tuer un calife. Une efficacité assez redoutable et qui a duré quand même pas mal, parce que l'ordre des assassins s'est perduré après lui, jusqu'à ce que les Mongols viennent les mettre la fin de la citadelle d'Alamout.
Avec des techniques très modernes à l'époque, qui existent toujours aujourd'hui, l'infiltration, la taquia, la technique de dissimulation. Fait. Vous racontez qu'au XIe siècle, c'était déjà comme ça que ça se passait.
Tout à fait. Il a compris qu'en fait, il fallait noyauter. Il fallait donc faire une propagande qui permette d'avoir des gens tellement fidèles que même s'ils vivent dans un autre univers pendant 5-10 ans, ils resteront fidèles à lui, à Hassan Ibn Sabah. Et donc, on a eu des gardes du corps qui se sont retrouvés pendant 10 ans à protéger un sultan. Et qui vont le tuer au moment où Hassan Ibn Sabah le jugera utile. Et cette infiltration est terrible, parce qu'en fait, imaginez un tout petit peu si Al-Qaïda avait réussi à ce qu'a fait Hassan Ibn Sabah. On aurait eu peut-être des juges même affiliés à Al-Qaïda, des policiers, des maîtres d'école, des politiques, des députés. Et c'est allé jusque-là, Hassan Ibn Sabah.
C'est Homeland. C'est comme Homeland, la série américaine.
Plus. Donc c'est fascinant, l'Ordre des Assassins. J'ai lu beaucoup de livres sur l'Ordre des Assassins et je me suis dit... C'est très moderne, terrifiant, mais très moderne.
Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est évidemment de faire l'analogie par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, à la menace terroriste aujourd'hui très, très forte. Et vous dites que les terroristes se moquent des discours politiques qui demandent des modifications de constitution ou des régimes d'exception pour lutter contre lui. Ça veut dire, pour revenir dans le débat public actuel, que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, et peu importe le changement de législation, le terrorisme s'en fiche.
Le terrorisme va s'adapter. Disons que les groupes qui utilisent la méthode terroriste vont s'adapter et surtout, ils cherchent à nous déstabiliser. Nous déstabiliser, c'est déstabiliser nos piliers fondateurs à nous et notre constitution. Imaginez qu'un groupe terroriste puisse arriver à faire changer la constitution d'une grande démocratie. Oui. Quelle victoire, c'est extraordinaire. Oui. C'est même pas une loi de plus, c'est carrément...
C'est ce que vous dites, parce que j'allais y venir. Oui. C'est ce que vous dites, par exemple, à la suite des attentats de 2015. Le terrorisme dit... Sur la déchéance de nationalité, la réforme constitutionnelle voulue par François Hollande, on est page 88, et c'est lui qui parle, c'est le terroriste. C'était donc la grande idée, dit-il, du président de la patrie des droits de l'homme, me faire l'honneur de changer la constitution de son pays et admettre à la face du monde mon efficacité, à moi le terroriste. J'ai le pouvoir donc de faire changer la constitution d'une grande démocratie. Il n'est pas allé au bout de son idée. C'est dommage, nous aurions bien ri. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ce que disent dans les coulisses de leurs réunions secrètes, dans les pays qui fomentent des attentats contre la France? Est-ce que c'est ce que disent, est-ce que verbalisent les têtes pensantes du terrorisme?
Mais tout à fait, parce qu'il faut bien comprendre qu'ils estiment que nous n'avons pas de valeurs. Ils méprisent nos valeurs. Et donc, eux, ils ne vont jamais abandonner leur salafisme, leur idée de littérale du Coran. Et ils constatent et finalement que nous, on est capable de vouloir abandonner nos valeurs, nos textes fondateurs. Pourquoi pas la laïcité? Pourquoi pas tel ou tel article de la Constitution? Donc, ils nous mettent à l'épreuve. Ils nous disent, regardez, vous faites n'importe quoi, vous êtes capable d'abandonner vos valeurs, votre ADN, vous valez rien, vous êtes pire
et
que des
méfiants. Et c'est leur objectif, nous déstabiliser et nous...
L'objectif d'abord, c'est de casser un ordre public, une société, pour pouvoir en mettre une autre qui leur plaît davantage. C'est ça l'idée de l'arme terroriste. C'est, je voudrais, moi, que l'islam radical se propage sur la planète, qu'on applique la charia un peu partout. Pour ça, j'ai besoin de casser l'existant. Il ne faut jamais oublier ça. Bien sûr, pour reconstruire quelque chose, mais il faut d'abord casser l'existant. Et si on se laisse casser sur nos socles, nos principes, il y aura effectivement la place pour mettre autre chose.
Mais vous dites quelque chose d'assez étonnant quand on connaît votre parcours et les dossiers que vous avez eu à traiter. Vous dites que le terrorisme auquel la France fait face aujourd'hui, ce n'est pas celui que j'ai connu lorsque j'étais procureur antiterroriste. Oui.
Tout à fait.
De quelle manière a-t-il évolué?
J'ai connu un terrorisme très organisé. Oui. C'est-à-dire que les gens partaient, à l'époque quand j'ai commencé en 2000, les candidats djihadistes partaient à Londres d'abord, Baker Street, Finsbury Park, ils étaient sondés, envoyés, puis il y en avait quelques-uns qui étaient envoyés dans les camps d'Al-Qaïda en Afghanistan. Mais vraiment, hein. Et puis là, après ils étaient formés pendant un an et demi, et puis on les réinjectait en Europe, où ils étaient agents dormants jusqu'à ce que l'on leur dise « tu vas faire un attentat ». On l'a vu avec le World Trade Center.
Oui.
Donc, c'était
un peu ce qui s'est passé avec les attaques contre Charlie Hebdo, contre le Bataclan. c'est un peu ce processus-là. C'est des gens qui sont partis se former dans les pays du Moyen-Orient, qui ont acquis des compétences et qui sont revenus en Europe et en France et qui ont agi sur ordre.
C'est vrai, mais ils étaient beaucoup moins agents secrets, entre guillemets, agents dormants. Ils s'étaient mis pour la plupart sur Facebook, on connaissait leur tête, un Baoud s'était filmé en train de traîner des corps. Donc il y avait un côté beaucoup moins professionnel quand même. Oui. Parce que logiquement, vous allez rejoindre un groupe terroriste, il ne faut pas qu'on sache que vous êtes parti pour ne pas savoir quand vous allez revenir, il ne faut pas qu'on sache votre visage. Tout ça, ils l'avaient abandonné quand même. Hein.
Plusieurs questions, Marc Trévidic. D'abord, comment expliquez-vous que la France est aujourd'hui en alerte maximale? Est-ce que c'est le contexte international? Est-ce que c'est les caricatures de Charlie Hebdo qui a une résonance évidemment particulière, mais l'alerte avait été donnée avant? Comment vous l'expliquez?
C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'un des préceptes du terrorisme, il me faut un ennemi. Les groupes terroristes ont besoin de désigner un ennemi. Ils ne peuvent pas combattre toute la planète en même temps, tous les pays occidentaux. Voilà, là, c'est la France. Donc, ils cherchent un prétexte. Là, c'est Charlie Hebdo, ça avait été le voile. On avait des menaces très fortes lors du vote contre le voile islamique. Donc, là, c'est la France. Et c'est dangereux, du coup, parce qu'il y a plein de gens qui vont prendre ça pour argent comptant. Oui, c'est la France qu'il faut attaquer, parce qu'on nous dit que c'est la France qu'il faut attaquer. On peut avoir des phénomènes, comme on a vu, donc, de gens même isolés, qui se disent « je vais faire quelque chose contre les Français ». Ça a toujours marché. Hein. Il me faut un ennemi. Donc, il faut faire très attention. On est en alerte maximum à cause de ça.
Est-ce que des attaques projetées, comme on l'a vu, on l'évoquait en 2015 par exemple, et ces dernières années, est-ce que c'est encore possible depuis des territoires comme l'Irak, comme la Libye, comme la Syrie ou comme le Mali peut-être?
À court terme, j'ai un peu de mal à le penser parce qu'ils sont tellement perfectionnés maintenant, nos services de renseignement occidentaux, que pour arriver à faire quelque chose de très organisé, alors que malgré tout, l'État islamique, ils sont un peu terrés partout. Il va falloir du temps avant qu'ils puissent s'exporter. Il faut que le groupe soit très fort localement pour pouvoir s'exporter. Mais maintenant, on voit qu'il y a des attentats en Irak qui recommencent.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si ça continue, les attentats en Irak, ça veut dire qu'ils ont réussi à se réorganiser. Et là, il faudra se méfier sur le fait d'exporter le terrorisme chez nous.
Marc Trévidic, la loi contre les séparatismes qui doit être présentée en décembre, Emmanuel Macron en a fait l'un des piliers de son quinquennat. Elle renforcera les principes de la laïcité, luttera contre les dérives communautaristes notamment. Est-ce que c'est une bonne loi? Est-ce que c'est un bon projet qui peut lutter contre ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrisme de l'islam politique?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a plein de choses très bien là-dedans, notamment tout ce qui est le verset scolaire un peu, qui sont très très utiles.
Oui.
Mais il manque toujours le côté international. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un projet français-français, hein. On n'est pas sur la même longueur d'onde que les autres pays européens sur pas mal de choses, sur la laïcité, on l'a vu, hein, parce qu'on voit des pays occidentaux qui viennent dire, on l'a vu Trudeau au Canada, qui n'ont pas la même notion du droit d'expression. Et puis surtout, à l'international, c'est la mondialisation. Comment voulez-vous lutter contre la radicalisation si l'islam radical est sponsorisé, continue à être sponsorisé par des gens qui ont de l'argent, des moyens, qui sont nos alliés en plus? Donc moi, ce que j'attends, c'est la loi sur le séparatisme, mais il faut aussi un volet international. Quels sont nos alliés? Comment on va faire la politique internationale de la France pour éviter la propagation de l'islam radical? En tout cas, ne pas y participer, ne pas vendre d'armes pour armer des gens qui peuvent faire la guerre et s'imposer comme ça, comme la guerre qui se passe actuellement au Yémen. Il y a quand même ce volet-là qui manque.
Oui. Trois attentats en 5 semaines, Marc Trévidic, perpétrés en France, dont l'assassinat odieux du professeur Samuel Paty. En tant qu'ancien juge antiterroriste, vous imaginiez que ça puisse arriver, ça, un jour en France? Un professeur assassiné pour avoir montré des caricatures, c'est effroyable.
Pour avoir montré des caricatures, oui, on aurait pu l'imaginer. Je veux dire, c'est quelque chose de très sensible, ce genre de problème-là. On l'a vu avec Charlie Hebdo, mais il y avait déjà eu des choses avant. On avait vu ce qui s'était passé au Danemark. Il y a un sujet très sensible, donc pour ça, oui. Par contre, ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est que malheureusement, on a du terrorisme de haine, pulsionnel et de haine. Donc on n'est plus dans quelque chose d'organisé, on a plus quelque chose c'est la haine qui s'exprime, sans qu'il n'y ait plus de logique, qu'il n'y ait plus de stratégie.
C'est ce qu'on appelle le terrorisme endogène, c'est ça?
Endogène, mais endogène qui est déconnecté d'une stratégie globale et qui est plus expression de la haine. En fait, on a chauffé à blanc des extrémistes. Et aujourd'hui, ça explose d'une façon complètement désorientée. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? Non pas la réflexion, mais de la haine. On est passé du terrorisme rationnel, j'allais dire de Descartes, au terrorisme pulsionnel haineux. Donc ça fait peur. Mais d'un autre côté, ils sont moins puissants, parce que justement, ils font des choses un peu dans tous les sens que le terrorisme rationnel, qui peut faire des opérations très lourdes.
Merci Marc Trévidic d'avoir été ce soir notre invité. Je rappelle votre ouvrage absolument passionnant. Achetez-le en librairie, bien sûr, si vous le pouvez. Ça s'appelle Le roman du terrorisme. C'est aux éditions Flammarion. Merci Marc Trévidic.
Merci. Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le rappel des titres à 18h30, Isabelle Millet.
Et si c'était enfin le vaccin tant attendu par le monde entier, les sociétés pharmaceutiques Pfizer et BioNTech affirment que leur vaccin est efficace à 90% selon les résultats préliminaires de la phase 3. Électrisés par cette annonce, les places financières s'envolent. Joe Biden salue un espoir mais rappelle que la meilleure arme pour lutter contre la pandémie, c'est de porter le masque. Un hôpital mobile déployé à Bayonne afin de renforcer les services d'urgence. Cette unité peut accueillir jusqu'à 18 patients. Il faut 45 minutes à peine pour la montée. C'était il y a un demi-siècle, la mort du général de Gaulle, hommage cet après-midi d'Emmanuel Macron à Colombey, les deux églises. 640 suppressions de postes à la Société Générale, notamment dans sa banque d'affaires. Elle assure qu'il n'y aura pas de départ contraint. Et puis le doyen du Vendée Globe, le skipper Jean Le Cam, se fait doubler par Damien Seguin, premier marin handisport à participer à cette course.
Merci Isabelle, à tout à l'heure 19h, la météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Avec des nuages et de la douceur, ma chère Anissa, au programme demain.
Oui, avec demain, Julien, en début de journée, du Grand Est jusqu'à la vallée du Rhône et sur une grande moitié nord du pays, beaucoup de brumes et de brouillards encore, comme depuis plus d'une semaine. Soyez très prudents sur les routes. Ailleurs, le ciel est couvert, avec toujours sur la façade atlantique un risque d'averse dans l'après-midi. Sur l'Alsace, c'est le Val-de-Saône. Attention, les brouillards ne vont pas se dissiper. Donc là, les nuages bas seront présents toute la journée. Puis dans le nord-est, le temps devient pluvieux. Ailleurs, le ciel est couvert. Finalement, il y a une alternance de nuages et d'éclaircies tout au long de la journée. Il n'y a que sur la région PACA et la Corse que le soleil sera présent demain. Les températures, vous le disiez, Julien, très douce, bien au-dessus des normales de saison encore, avec 4 à 11 degrés demain matin. 10 à 20 dans l'après-midi, nous aurons 10 degrés à Strasbourg, 13 à Nancy, 15 à Lille et Paris, 17 à Lyon, 19 à Nice et 20 pour Marseille et Ajaccio, c'est la maximale.
Super, merci Anissa.
À tout à l'heure.
Et à tout à l'heure, 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Brice Tinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Bonsoir Brice.
Bonsoir.
Isabelle Vera-Masson, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de com' politique. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors pour débuter, on vous emmène aux États-Unis où désormais tous les regards sont tournés vers Joe Biden, le futur 46e président des États-Unis, et sa colistière Kamala Harris, qui suscite l'enthousiasme de la gauche américaine. C'est vrai qu'elle est la première femme noire à accéder à un tel poste. Et cette fois, ça y est, Joe Biden et sa colistière sont déjà à la tâche avec la nomination d'une task force contre la pandémie. Ils réfléchissent déjà à la constitution de leur administration autour de trois axes: pandémie, économie, changement climatique et justice raciale.
On connaît la chose la plus efficace pour ralentir la propagation du virus: porter un masque. Je ne serai pas président avant le mois de janvier, mais mon message aujourd'hui à tous, c'est celui-là. Peu importe pour qui vous avez voté, peu importe votre parti politique, votre point de vue, on peut sauver des dizaines de milliers de vies si tout le monde porte le masque. Pas des vies de démocrates ou de républicains, des vies américaines. Alors s'il vous plaît, portez le masque.
Bien, voilà, Isabelle, ça y est, on est avec ces déclarations d'intention, on voit que l'Amérique a changé de bord, ça y est. Même si Trump continue à contester les résultats, l'avenir... s'ouvre à Joe Biden et Kamala Harris.
Oui, si pour vous, le masque est un changement d'existence, oui. Enfin,
non, mais il se présente en président.
Oui, il se présente en président. Et puis pour nous, enfin, il se présente aussi du côté de la science, quoi. C'est-à-dire de la raison, c'est-à-dire de quelque chose de solide. À chaque fois qu'on voyait Donald Trump, on se demandait quelle était la fake news qu'il allait donner. Quelle était... Jusqu'au bout. Les derniers jours ont été une sorte de... Ouais. On avait l'impression que Ubu Roi était au pouvoir et qu'on était... Alors là, Joe Biden, évidemment, tout ce qu'il va dire maintenant va nous sembler d'une modération, d'une raison extraordinaire.
Attendez, c'est pas fini, parce qu'il paraît que Donald Trump veut continuer à faire campagne dans les états pivots où Joe Biden est arrivé en tête. Ça, c'est pour la suite au prochain épisode.
Voilà. Donc effectivement, c'est une nouvelle ère, celle de la raison qui s'annonce.
C'est vrai qu'il a quand même rassemblé 70 millions d'électeurs sur son nom, Donald Trump, Charles Villeneuve. Est-ce que le trumpisme lui survivra, Donald Trump?
Oui, je crois. D'ailleurs, comme finalement tout ce qu'on construit, si j'ose dire, dans l'opinion publique, les Gilets jaunes survivront aux Gilets jaunes aussi. Il y a une déchirure quand même indéniable. Et là, je parle sous le contrôle de Brice Tinturier. Elle existe en France, évidemment moins violente peut-être, mais elle existe aussi et elle existera encore aux États-Unis. Mais cela étant, ni les arguties juridique ni les protestations de Donald Trump n'empêcheront Joe Biden de devenir le 46e président des États-Unis.
Oui, les jeux sont faits maintenant. Alors, il semblerait, selon des sources bien informées, je le disais, que à la Maison-Blanche, des conseillers, des proches et même son épouse Melania Trump tentent de le convaincre d'accepter sa défaite, mais sans succès. Et il se dit aussi que Donald Trump ambitionne maintenant de se lancer dans un grand network, une sorte de chaîne de télé, pour faire vivre ses idées, un peu sur le modèle de Fox News, mais tournée autour de sa personne et de sa conception du monde. Alors, Brice Teinturier, même question. D'abord, qu'est-ce que le Trumpisme? Et est-ce que vous y voyez, d'une certaine manière, une vraie doctrine?
Oui, je crois qu'il y a une vraie doctrine à l'œuvre, et puis il y a aussi et surtout peut-être un récit très puissant, puisque le Trumpisme, notamment celui de 2016, mais qu'on a retrouvé de manière affaiblie en 2020, c'est d'abord de poser un Graal. Il y a un Graal qui était Make America Great Again, donc il y a cette idée d'un idéal à atteindre. Il y a un héros, c'est évidemment Donald Trump, et puis il y a des adversaires, c'est la Chine, ce sont les démocrates qui sont des marxistes, ce sont les médias, l'establishment, etc. Et ça donne une structure très lisible. Ça crée l'idée d'un combat où il y a la force d'un côté et puis les adversaires de l'autre.
C'est
très manichéen parce que c'est quelque chose qui, évidemment, ignore la complexité du réel, mais ça permet d'impacter très fortement et de toucher très fortement les populations. Ça a moins bien fonctionné en 2020, pas parce que Donald Trump était devenu plus borderline. Moi, je ne crois pas que ce soit une explication psychologisante qui soit la plus puissante, mais parce que la force de son Graal, sa capacité à projeter quelque chose de positif, était moins puissant en 2020 qu'en 2016. Parce qu'il était le sortant, parce qu'il était aussi à la tête d'une démocratie qui fonctionnait correctement,
oui,
et un populiste qui s'attaque au processus électoral, en réalité c'est compliqué. Donc ça affaiblissait la structure de son récit. Mais il a quand même, vous l'avez rappelé, il a quand même obtenu un nombre de voix assez impressionnant.
Considérable, 70 millions. Un président... en situation, c'est inédit. Même Obama n'en avait pas rassemblé autant lors de son premier mandat.
C'est inédit. Mais... Alors Biden aussi, hein, c'est inédit.
Oui. 4
Donc,
millions de plus.
Oui, et exactement. Donc c'est quand même une victoire assez nette de Biden. Il ne faut pas non plus l'oublier parce qu'on a dit que c'était à touche-touche. Non, c'est plus qu'à touche-touche. C'est une victoire nette de Biden. Mais la surmobilisation des deux camps est indéniable. L'augmentation aussi démographique du corps électoral de 2016 à 2020 joue.
Charles Villeneuve.
Non, mais... Ce qu'il a géré, de la manière dont il a géré la crise sanitaire, était quand même, si vous voulez, à jouer tout à fait contre lui, puisqu'au lieu d'observer, d'analyser cette crise à travers un prisme politique, il l'a fait à travers le prisme économique, puisque ça gênait de toute façon toute son action économique. Et d'ailleurs, dans les objectifs de Biden, on voit très bien que sur le plan économique, il va s'y mettre, et il a intérêt à s'y mettre aussi. Et de la même manière que le président de la République française aussi a intérêt à s'y mettre. C'est un paramètre qu'il faut observer très attentivement. Mais je pense que dans l'attitude de Biden par rapport à l'Europe, par rapport aux grands dossiers politiques internationaux, il est bien évident qu'il sera obligé de tenir compte de ce qu'a fait, notamment sur la Chine. Désigner la Chine comme l'objectif de l'adversaire numéro un, ça ne changera pas. Et je ne pense pas que, notamment, Biden... Si vous voulez, même s'il est beaucoup plus sympathique, il n'y a qu'à voir son action au Sénat. C'est le roi du compromis. Et il est quand même aussi sympathique. Il a des relations humaines beaucoup plus, très différentes.
Non, mais tout le monde s'accorde à dire que la ligne économique sera à peu près la même pour les partenaires, y compris pour nous, Européens. 18h39, on se retrouve dans quelques secondes pour parler de l'héritage Donald Trump et puis de Charles de Gaulle aussi. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41, on est toujours avec le débat des grandes voix. Charles Villeneuve ce soir à mes côtés, Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos, Isabelle Véramasson, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de com' politique. Et on évoque la figure de Donald Trump et son héritage. Question pour vous, Isabelle Véramasson. Est-ce que cette défaite de Donald Trump peut avoir un impact sur les échéances électorales en Europe? Je m'explique. Est-ce que la dynamique des populismes est en perte de vitesse?
Alors, moi, je crois quand même qu'il n'y a pas d'avenir pour ce que vous appelez le Trumpisme. Et donc, c'est une manière de répondre aussi à la question. C'est-à-dire que si le Trumpisme, c'est le populisme, à ce moment-là, il y a un avenir et comme il y a un passé. Je veux dire, c'est un mouvement politique que l'on connaît bien. Mais Trump, il est allé au-delà, à mon avis, du populisme. C'est-à-dire que dans sa communication politique, dans ses prises de position, dans ce qu'il était dans le passé, et même apparemment dans l'avenir, il est à part. Je ne crois pas, et j'espère pas, parce que ce caractère totalement atypique et choquant, enfin, je veux dire, on avait un peu honte, d'ailleurs, moi, mes amis américains avaient honte pour
ça dépend lesquels. Ceux des habitants de la côte Est et côte Ouest, sans doute, mais c'est tous les autres, les 70 millions qui ont voté pour eux, pas du tout.
On n'est plus dans les prises de position, dans l'idéologie, dans la structure même sur laquelle on n'est pas d'accord. Il y a, enfin, rappelez-vous, dans la tenue presque physique, les mensonges, les grossièretés. Enfin, c'est pas forcément ça le populisme. Je veux dire, on peut penser ce qu'on veut de Marine Le Pen, qui je crois, est un leader populiste. Elle n'est pas du tout dans cette démarche-là. Et je crois qu'il a franchi des limites qui me semblent, et du coup, on ne peut pas en tirer, à mon avis, ni des leçons sur l'avenir en Europe ou ailleurs.
Alors, même question, Brice Teinturier, et peut-être quand même, ce qui fait la singularité de Donald Trump par rapport aux populistes tels qu'on les conçoit, nous, ici, en Europe, c'est qu'il il a battu en brèche que peut être un semblant de vérité. Ça, c'est assez nouveau, quand même.
Oui, ça, c'est nouveau, et ça pose la question ensuite de comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde commun si on n'est même pas d'accord sur un certain nombre de faits, et donc sur nos désaccords éventuels. Mais je crois en revanche qu'il y a des idées qui sont à l'œuvre chez Trump, qui vont perdurer, qui sont à l'œuvre aussi en Europe, que la demande de protection est très puissante, que la xénophobie aussi est un moteur extrêmement puissant, la rivalité avec l'autre, que l'éloge ou le désir de retrouver de la force, de la souveraineté, c'est quelque chose qui va perdurer, qui existe déjà, et qu'un certain nombre de courants politiques sont porteurs de cette idéologie. C'est une idéologie au sens technique du terme.
Mais la défaite de Donald Trump, ça ne signifie pas que ces courants qui portent ces idées-là sont en perte de vitesse.
Non, je ne crois pas du tout. Simplement, et pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure sur la gestion du Covid, il me semble malgré tout que les populations, globalement, à l'aune de la crise du Covid, ont compris qu'il valait peut-être mieux avoir des dirigeants rationnels et qui travaillent en s'appuyant sur la science que l'inverse. Ça, c'est quelque chose qui a handicapé, effectivement, Donald Trump, et qui peut servir de leçon allant au-delà. Mais les fondamentaux, en revanche, de ce qu'a incarné Donald Trump et de ce qu'incarnent d'autres leaders politiques en Italie, en Hongrie, en France, Marine Le Pen ou Orban ou Salvini, ces fondamentaux-là résonnent encore dans une grande partie de la population.
Mais vous dites qu'il y a quelque chose qui est différent, Charles Villeneuve réagissait aussi, il y a quelque chose qui est différent chez Donald Trump, c'est qu'il a une vision apocalyptique des choses comme l'ensemble des populistes, mais avec une espérance au bout du tunnel. Brice Teinturier,
ça, moi, c'est ce que je pense, c'est qu'effectivement, son Graal, ce que j'appelais son Graal, sa capacité à projeter les gens dans un avenir plus positif, est ce qu'il différencie un peu de certains populismes. Le populisme du Rassemblement national, il repose toujours sur le même triptyque, une vision apocalyptique de la situation, le déclin, la décadence, etc., attribuée à la faillite des élites, et avec une cause majeure qui est l'immigration. Donc il y a moins de place pour une projection positive chez certains populistes en Europe, pas tous. Trump, c'était une de ses forces, je crois, arriver à projeter une vision positive pour les Américains, la grandeur retrouvée et exprimée de manière positive, pas simplement à l'aune du combat contre les autres.
Charles Villeneuve.
Ce qui va rester, c'est la méfiance à l'égard de l'establishment, ce qu'on appelle ici l'establishment, c'est-à-dire les élites. Et je crois que ça va rester, et ça existe en France, et c'est un mouvement croissant. La méfiance par rapport aux élites, la méfiance aussi par rapport aux grands médias, aux États-Unis, pas seulement, en France aussi, indéniablement. Et c'est ce qui est dangereux. Il y a certains livres qui sont sortis dernièrement, politiques d'ailleurs en France, qui contribuent parfaitement à forger cette conviction. Notamment d'un ancien secrétaire d'État, le livre de Jouyet, pour ne pas le citer. Quand vous le lisez, vous avez l'impression que tout se passe entre l'inspection des finances et qu'on se distribue les postes. C'est-à-dire qu'il accroît la méfiance qu'on peut avoir par rapport à ce corps, au demeurant d'ailleurs de qualité aussi, évidemment.
Isabelle.
Oui, là, je crois qu'on est d'accord que ce n'est pas Trump qui a inventé le populisme. Qu'est-ce que c'est que le populisme ? C'est un mélange de démagogie et de surfer sur l'actualité.
Mais ma question, c'est sa défaite n'aura pas d'incidence, par exemple, en 2022, sur la puissance ou la dynamique du Rassemblement national. Je veux dire, quand on sait que le Rassemblement national était l'un des rares soutiens en France de la candidature de Donald Trump.
D'abord, je ne crois pas que la politique américaine puisse avoir de l'influence sur la France. Là, on est quand même, on voit bien qu'il y a une grande différence. En plus, ils ne se ressemblent pas, Marine Le Pen et Donald Trump. Par exemple, un des facteurs de réussite de Trump, c'est le fait qu'il ait été un grand milliardaire. Et ça fait penser plutôt à Berlusconi. Moi, on rencontre 12 gens et on les a entendus dire que finalement, la réussite de Donald Trump pour lui-même, ça pourrait être la réussite de l'Amérique. Ce n'est pas le cas de Marine Le Pen. C'est vraiment un personnage totalement différent. Et il ne mise pas non plus strictement sur les mêmes arguments. Il n'y a pas une Chine pour Marine Le Pen comme il y a aux États-Unis. Non, je crois vraiment qu'on est dans des secteurs extrêmement différents. En revanche, on voit bien qu'il y a eu un basculement du monde et que les populistes, mais c'est pas toujours vrai, regardez ce qui s'est passé en Italie. Oui. En Italie, il n'y a pas eu véritablement de continuité dans le populisme. C'est très difficile de voir l'avenir.
Un petit mot, et puis on passe à De Gaulle.
Sans qu'il y ait d'influence directe, malgré tout, je pense que quand vous avez des dynamiques collectives communes au même moment, cela donne plus de légitimité à une formation politique. Si on avait eu Salvini en Italie, Trump réélu, etc., ça nourrit, parce qu'il y a quelque chose de mimétique, ça nourrit aussi la légitimité des mouvements populistes en France. Mais malgré tout, les ressorts ensuite, je vous rejoins là-dessus, restent fondamentalement nationaux.
Alors la France et l'héritage, justement, on en parle dans quelques secondes, 18h48. De Gaulle, c'est un monument dont on va parler dans un instant, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h, et ce soir, on s'intéresse à la figure de De Gaulle qu'on commémore aujourd'hui, 50 ans après sa mort. Emmanuel Macron assistait cet après-midi à un hommage à Colombey-les-Deux-Églises. C'était le 9 novembre 1970. Vers 19h, le général De Gaulle murmure « J'ai mal là, dans le dos », avant de s'effondrer, terrassé par une rupture d'anévrisme, à quelques jours de ses 80 ans. Et ça n'est que le lendemain, à 7h20, que le président Georges Pompidou est prévenu, avant que les médias, et notamment Europe numéro 1, relaient l'information.
C'est hier, en fin d'après-midi, vers 19h30-20h, d'après les premiers renseignements que nous venons de recueillir, que le général de Gaulle est mort, brusquement, semble-t-il, sans que, dans les jours précédents, sa santé ait donné lieu à des inquiétudes particulières.
Et on sent qu'il suffoque presque le présentateur Jean Gorini. Et vous étiez là ce jour-là, Charles Villeneuve.
Absolument. J'étais à côté du directeur de la rédaction, du directeur général adjoint, Jean Gorini. Et le téléphone sonne au bocal. Jean me dit « Décroche, Villeneuve, décroche ». Je décroche et manifestement, j'ai un militaire au bout du fil qui me dit « Ça fait au moins une heure que le curé de Colombey, l'abbé Jaugé, est à la boisserie. Il se passe quelque chose ». Et le médecin est arrivé aussi, de Bar-sur-Aube, à toute vitesse, vers hier soir, il était là, il s'est passé quelque chose. Et évidemment, moi, j'ignore si c'est vraiment le général de Gaulle, est-ce que ça n'est pas Yvonne de Gaulle, si vous voulez. Et très vite, Jean Gorini descend à l'antenne, et d'ailleurs, il en perd son souffle, dans une première intervention. Et très vite après, on sait que le général Alain de Boissieu, le gendre, regagne Colombey, que l'amiral, qui n'est pas encore amiral, mais capitaine de vaisseau, Philippe, son fils, est allé à l'Élysée pour avertir le président de la République, qui détient la première version du testament du général de Gaulle. Il n'y en a que trois. Et c'est Madame de Gaulle qui a dit à son fils, « Va, ton père est parti, nous a quittés hier soir », va voir le président de la République et lui dit surtout, pas d'obsèques nationales, surtout qu'il faut suivre ce que ton père a écrit dans son testament. Or, le président Pompidou ne recevra jamais Philippe de Gaulle et l'apprendra en réalité par son attaché militaire qui a été alerté par Alain de Boissieu, le général de Boissieu. Voilà comment ça s'est passé et nous avons le recoupement ensuite parce que la factrice de Colombey s'est présentée à la boisserie et l'une des... C'est pas Honorine, la cuisinière, mais c'est Charlotte, qui est l'assistante de la cuisinière, lui a dit « Monsieur est mort hier soir ».
Incroyable histoire. Merci de nous partager ce récit, Charles Villeneuve. Brice Teinturier, alors je saute quelques dizaines d'années là, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron le premier, tout le monde se revendique de cet héritage de Charles de Gaulle? D'ailleurs, c'est assez loufoque à souligner, de Montebourg, en passant par Macron, en passant par Marine Le Pen même, dont la constitution historiquement du Front National s'est faite par opposition au général de Gaulle et à ses idées.
Oui, tout à fait. Je crois que De Gaulle aujourd'hui est en surplomb total de l'ensemble de la classe politique nationale, à la fois parce qu'il est le fondateur quand même des institutions et qui ont résisté jusqu'à nos jours, parce qu'il y a le De Gaulle de l'appel du 18 juin, bien évidemment, et puis parce qu'il y a dans le pays aujourd'hui le sentiment que les leaders ne sont pas à la hauteur, ne sont plus au rendez-vous, et que le leader désintéressé qui parlait de la France, pas simplement des Français, de la France, le dernier à avoir porté à ce point l'idée de la France, c'était bien évidemment De Gaulle. Et enfin, comme nous sommes dans un moment de retour des nations, de retour du besoin de souveraineté, du besoin de nation, de critique de la mondialisation beaucoup plus importante, toutes nos enquêtes l'attestent, eh bien c'est un ingrédient supplémentaire pour se tourner vers la figure tutélaire du général de Gaulle.
D'ailleurs, De Gaulle reste aujourd'hui dans les sondages le président préféré des Français, de loin, avec 65% d'opinion favorable. Isabelle Verramasson, votre point de vue sur cet héritage de Gaulle.
Oui, De Gaulle est au-delà d'un politique, c'est un mythe. On a vu la construction du mythe depuis, j'allais dire, même avant même qu'il meure. Mais c'est d'abord, et c'est quelqu'un qui a rencontré l'histoire. C'est un personnage historique. Nous, on avait travaillé sur la question des grands hommes. Et quand on interroge les gens sur quels sont les grands hommes que vous voulez rencontrer, c'est un sondage qui est fait depuis 1948. À partir du moment où on a proposé le nom de Gaulle, il dépasse tout. On l'a même retiré. Parce que de toute façon, 99% des gens aiment le mettre en premier lieu. Donc on retire dans les sondages le nom du général de Gaulle, tellement il est au-delà de toute possibilité. Il dépasse évidemment les personnages politiques et puis les grands hommes. Et il fait partie de ces personnages qui sont comme des boîtes à outils. C'est un peu comme Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que, quels que soient les hommes les bords politiques, on va chercher chez lui ce qui va conforter vos propres opinions, même si elles sont inverses de celui d'à côté. Donc, on ne parle même plus de vérité historique, me semble-t-il, parce qu'on a oublié qui était De Gaulle.
Je voudrais vous citer une phrase du général De Gaulle, qui disait à Mesmer, à l'un de ses grognards, « On a vaincu le nazisme, on a vaincu Vichy, les collabos, les communistes, mais on reste sur un échec, Mesmer. On n'a pas réussi à convaincre la bourgeoisie française d'avoir le sens de la nation, de la patrie et des intérêts de la France. » Et ça, c'est assez d'ailleurs lourd et frappant. Je voudrais, pour finir justement, puisque vous me demandez de finir, citer le livre « Des dernières heures à Colombey » de Gérard Bardi. C'est la mort du général, c'est avec la collaboration de la famille, c'est d'une précision assez stupéfiante et ça fait plaisir aux journalistes que nous sommes.
Bien, achetons-le en librairie donc, et non sur les géants du e-commerce. Merci à tous les trois d'avoir participé ce soir aux Grandes Voix du lundi. 18
Europe 1, Julien Bugier.
Et voilà la petite musique, 18h57, on se retrouve dans quelques secondes avec le Grand Journal et le Club des Idées. On continuera, vous verrez, à parler de la figure de Gaulle, avec notamment Michel Onfray qui publie Vie parallèle, De Gaulle, Mitterrand. À tout de suite.
Europe 1.